Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon.
Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission Storia Voce, votre web radio qui vous parle d'histoires qui donnent la parole à ceux qui l'écrivent. Mais pour cela, nous avons besoin de votre aide et de votre soutien financier. Je rappelle que vous pouvez faire un don à partir de la rubrique « Soutenez-nous » de notre site internet storiavoce.com. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux géants qui ont fait la Révolution française. Leur nom à eux seuls évoque la terreur. Je veux parler de Danton et de Robespierre, avocats tous les deux, patriotes et républicains. Ils se sont donnés corps et âme pour la cause révolutionnaire. Alors, ils ont été camarades de lutte, puis adversaires, mais également, ils se sont un peu trahis l'un l'autre. Leur parcours et leur action témoignent non seulement de deux caractères en révolution, mais également de deux idées de la Révolution française, deux conceptions du politique qu'on ne peut comprendre sans étudier leur jeunesse, sans étudier la réalité de leur caractère et même de leur physique. Un historien a relevé le défi de croiser leurs portraits, un petit peu comme Plutarque et ses vies parallèles, qui comparent des itinéraires d'hommes illustres. Loris Chavanette parle de Danton à la lumière de Robespierre et de Robespierre à celle de Danton. Mais contrairement aux héros de Plutarque, qui ne se croisaient que dans les écrits du biographe grec, Danton et Robespierre se sont connus dans la vraie vie, se sont appréciés, se sont trahis. Bonjour, Loris Chavanette.
Bonjour, Marie-Gwen Carichon.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes docteur en histoire, spécialiste de la Révolution française. Ce n'est pas votre premier ouvrage sur le sujet. Et ce livre, donc, c'est deux portraits des grands héros de la Révolution française, Danton et Robespierre, le choc de la Révolution. Et ce livre est paru aux éditions Passé Composé. Robespierre, c'est probablement l'homme le plus connu de la Révolution française. Il y a même une société d'études pour étudier exclusivement ce personnage. C'est pas le cas de Danton. Et puis Robespierre, c'est aussi une figure qui tend un coup à être érigé en icône de la Révolution ou alors en monstre de la terreur, selon le bord idéologique qu'ils veulent définir. Il incarne même les querelles historiographiques. Alors pourquoi est-ce qu'on se souvient de Robespierre et on a tendance un petit peu à oublier Danton ?
Alors, il est vrai que Danton et Robespierre, le sujet m'a paru comme une évidence. Il s'agit d'un couple, presque d'une même et unique personne, tant ils ont œuvré en commun, main dans la main, pour faire aboutir leurs idéaux d'égalité, de liberté, à partir de 1789. Mais il y a une évidence qui domine l'autre. C'est toutes les polémiques qu'a engendré la carrière politique de Robespierre. Robespierre est demeuré, à partir de sa chute, le 9 Thermidor, une figure controversée, une figure qui fait pousser des cris d'orfraie à certains et qui, au contraire, fait verser des larmes de passion et de tristesse à d'autres qui ont admiré et regretté sa chute. Mais Robespierre est une figure donc politique qui fait toujours polémique, comme l'écrivait Marcel Gauchet dans sa biographie. C'est l'homme qui nous divise le plus. Pourtant, la nation française, l'histoire de France est riche de nombreux épisodes, elle est millénaire, mais il est vrai que Robespierre a quelque chose de différent, de par ses idées politiques, de par sa personnalité, de par l'époque à laquelle il appartient, et à laquelle on a donné le nom de terreur, et on pourrait débattre de la légitimité de cette appellation. Je crois qu'elle est légitime, pour le seul fait que l'expression a été employée à l'époque et qu'il faut aussi schématiser une époque, voire même l'incarner, parce que ce sont les hommes qui font l'histoire après tout, et Robespierre a fait l'histoire de ces années 2 et 3, rarement un homme politique a incarné son époque aussi, même s'il n'a pas personnalisé le pouvoir comme un dictateur le ferait, il a incarné son époque, et son époque, ben, c'était celle du gouvernement révolutionnaire et de la terreur.
Est-ce qu'on peut parler du couple Danton et Robespierre? Parce que quand on lit votre livre, on se rend compte que Danton a un réseau assez considérable dans plusieurs milieux sociaux. Robespierre, lui, est un peu moins d'amis, mais il a quand même des amis très fidèles. On peut penser à Saint-Just, par exemple. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces deux portraits en particulier? Est-ce qu'il y a une raison historique?
Alors, dans la galerie des grands acteurs de 1789, j'ai presque envie de dire que Danton et Robespierre sont au second plan. Ce sont les Mirabeau, les Lafayette, les Barnaves qui font l'histoire et qui appellent les événements et les commandent. Mais pour autant, Danton et Robespierre jouent un rôle en 89. D'une part, même si c'est pas le principal, ce sont des acteurs de second ordre, bien que ils vont devenir les premiers rôles de la décennie révolutionnaire un peu par la suite. Mais Danton et Robespierre ont à la fois été des hommes qui ont contribué à l'éclosion des idéaux révolutionnaires de 89, mais et puis aussi à la chute du trône, à la fondation de la République. Danton a à la fois demandé la proclamation de la République, la création du calendrier républicain, l'abolition de l'esclavage, la création du tribunal révolutionnaire. Bon, bref, ces deux-là ont constitué un tandem, durant un certain temps du moins. Rien ne leur résistait. Ni les royalistes, ni les feuillants, ni les girondins, mais la nature revient toujours, refait toujours surface, et leur caractère ne pouvait que les mettre face à face, face contre face, tôt ou tard. Et donc c'est aussi cela qui m'a intéressé. Ce sont deux personnages dont l'histoire est quasi romanesque, en ce que c'est un duo devenu duel. Et même s'ils sont réputés essentiellement pour leur rivalité, leur conflit à mort, parce qu'à l'époque le conflit se finissait sur l'échafaud, place de la Révolution, leur histoire est d'autant plus belle qu'au début ils se sont aimés. Et Robespierre a écrit notamment une lettre d'amour à Danton un peu plus d'un an avant qu'il ne l'envoie à l'échafaud, une lettre dans laquelle il lui disait « Je t'aime, en ce moment je suis toi-même ». Embrasse ton ami.
C'est très empreint de romantisme, finalement, ces deux parcours. Puis il y a aussi quelque chose qui caractérise leur relation, c'est que Danton et Robespierre sont tous les deux originaires de province. Ils ont le même âge, mais ils n'ont pas eu la même enfance. Et ça, vous l'expliquez très bien, et c'est intéressant de lire dans votre ouvrage le poids de l'enfance, le poids du caractère sur la pensée politique. Un des deux a eu une enfance heureuse, l'autre un peu moins.
Ben, en effet, Marie-Gwen Carichon, ils se ressemblent et ils sont à la fois dissemblables. Mais parce que, ayant d'abord commencé leur existence en tant que appartenant à la même génération, Robespierre est né en 1758, Danton un an après, en 59. Ils sont tous les deux roturiers dans une France où c'est la roture qui paie l'impôt, c'est la roture qui est régulièrement humiliée par les traditions aristocratiques. Ils partagent une même haine, d'ailleurs, de l'absolutisme monarchique, de l'aristocratie. Aussi, Danton le dit d'ailleurs, hein, il ne s'en cache pas. Au comte de Ségur, en septembre 1792, il dira... Vous oubliez que nous sommes de la canaille, que nous sortons du ruisseau, nous ne pouvons gouverner qu'en faisant peur. Ces deux-là sont conscients de leur place sociale au sein de la monarchie absolue. Alors, ils se ressemblent d'un côté, aussi parce qu'ils sont orphelins. Danton a perdu son père à l'âge de deux ans, Robespierre. Sa mère et son père, coup sur coup, quand il avait 6 ans. Et donc, bien évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. puisque quand on étudie aussi la psychologie des personnages pour essayer de percer le mystère de leur être, de leur ascension politique, plus ou moins contrariée, complexe, dans leur essence, dans leur existence, eh bien on découvre que Robespierre a beaucoup plus pâti d'une enfance solitaire, sa mère étant morte jeune, il l'aimait beaucoup. Il y a un texte, une source qui nous apprend que elle lui apprenait à coudre la dentelle sur ses genoux quand il avait 5 ans. Robespierre a été détruit intérieurement par l'arrachement de cette mère tendre et aimante. C'est aussi ce que nous raconte d'ailleurs sa sœur Charlotte, dont les mémoires sont absolument essentielles et sur lesquelles on reviendra plus tard. Robespierre, il y a un avant et un après dans sa construction intellectuelle, émotionnelle, mais pas seulement à compter de la mort de sa mère. Bien sûr, à 6 ans, on n'est pas encore complètement fait, j'ai envie de dire. C'est plutôt que après une double peine, il a connu une triple peine puisqu'il a été envoyé à Louis le Grand pour faire ses études. Et il y est resté pendant 12 ans, très aimé de ses professeurs, mais on pourrait dire excessivement rejeté par ses camarades, excepté, l'image est forte tout de même, un camarade bègue de 2 ans son cadet, Camille Desmoulins. Alors vous savez comment ça se passe dans la cour d'école, de 2 ans plus jeune que lui, bègue. Bon, Desmoulins ne devait pas avoir beaucoup d'amis, c'est un peu les querelles de la récréation. Et dans ce collège, Louis-le-Grand, anciennement gouverné par les jésuites, ayant conservé encore une tradition jésuitique, enfermée, de culture ultra-classique, Robespierre est à l'aise, en fait, parce qu'il peut déployer son sens de la rhétorique, son amour de l'Antiquité, même s'il est très cloisonné, il est vrai. À l'inverse, Danton connaît une enfance heureuse, sa mère se remarie très vite, avec le beau-père de Danton sera d'une tendresse infinie avec ce fils un peu turbulent qui refuse d'entrer dans les ordres, qui fugue régulièrement, qui est finalement éduqué dans une maison d'éducation à Troyes, où il y a une culture de l'éducation intellectuelle assez tolérante, ouverte. On étudie par exemple les hommes et les philosophes du 18e, rien à voir avec l'austérité du collège Louis-le-Grand où l'on reste dans Plutarque. De même, Danton a pu bénéficier du fait d'être externe dans sa pension, et donc il pouvait sortir le soir, profiter, avoir des parties de franche camaraderie avec ses amis. Et puis aussi, il y avait la culture du sport qu'a connu Danton toute sa vie. Il a travaillé son corps, travaillé sa gestuelle, il se baignait régulièrement à Arcis-sur-Aube dans les bains de l'Aube, justement, et à la pension même il exerçait, il y avait des cours en gros d'éducation physique, on dirait d'éducation physique et sportive, et Danton a adoré cela, d'après les témoignages de ses camarades qui le peignent comme un camarade, un personnage haut en couleur déjà, vitupérant contre ses professeurs, parfois insultant, mais avec toujours le verbe haut.
Et le verbe haut, il l'aura plus tard à Paris. Vous le dites très bien dans votre livre, vous comparez le charisme des deux personnages. Robespierre, il fréquente au lycée Louis-le-Grand, il est avec un bègue, il est un peu exclu de la classe. Danton, il a toute sa place. En fait, Danton est très à l'aise avec son corps, Robespierre beaucoup moins. Et il y a un chapitre que vous consacrez à cette description physique des deux personnages. Quand on parle des idées de quelqu'un, on se fait systématiquement une idée de son physique. Mais là, j'aimerais que vous nous aidiez à nous faire une juste idée du physique de Robespierre et de Danton.
Alors, il est vrai que tout en travaillant la psychologie, j'ai travaillé les formes, les apparences de ces deux figures. Ils ont eu tous les deux la petite vérole, hein. Danton a failli en mourir, mais ils ne se ressemblent pas pour autant. L'un est gringalet, si l'on peut dire, l'air maladif, les épaules étroites, un peu rentré en lui-même comme une tortue. C'est Robespierre qui a du mal à déployer ses poumons à la tribune. Du moins en 1789, parce qu'après il sera un brillant orateur au club des Jacobins, sa maison mère. Mais grosso modo, pour faire simple, Robespierre fait à peu près 1m60, un peu moins. Danton, plus d'1m80. Ça veut dire qu'il lui prend une tête, si l'on peut dire. Il le regarde de haut, il le toise, il ne l'humilie pas, mais ça a donné à Danton un excès de confiance en lui. Donc, si vous voulez, l'étude des corps est à la fois intéressante en soi, parce qu'il ne faut pas oublier l'art du portrait, et l'art du portrait, c'est aussi les images qu'on s'en fait, les descriptions que leurs contemporains en ont fait, et je cite de nombreux textes, de nombreux mémoires de députés à la Convention qui racontent quelle était l'impression que leur faisait physiquement Danton ou physiquement Robespierre. Et c'est vrai que en plus du corps, il y a les conséquences politiques que ces deux corps ont pu avoir sur leur entrée en révolution, sur leur évolution, leur carrière. Et si on devait donner un autre exemple aussi de ce côté schématique, l'image qu'on s'en fait à travers le film de Vajda, mais aussi à travers d'autres témoignages, on se souvient de que Robespierre, effectivement, a su demeurer, même au fort de la terreur et des sans-culottes, du règne des sans-culottes, l'homme qui, tous les matins, en se levant, faisait venir son coiffeur, son poudrier, dans sa chambre pour lui faire la toilette. C'était son petit luxe, son côté raffiné qu'il gardait. Il faut pas oublier que quand il déclame son discours de l'être suprême, il est revêtu d'un habit bleu ciel, ravissant, lumineux. Il était coquet, Robespierre. Danton, à l'inverse, et on le voit, on l'imagine, chemise ouverte, torse éruptif, cou de taureau, nez écrasé avec une bouche démesurément laide. Danton est d'une laideur ignoble, si l'on pouvait faire un jeu de mots. Il est décrit ainsi, et c'est ainsi qu'il apparaît, mais je crois que parfois la laideur peut, et bon, je m'essaie à le dire ici, peut donner aussi une forme d'intelligence, puisque pour séduire, il faut se servir d'autre chose que son corps qui apparaît et qui tout de suite s'aliénerait les faveurs de ces dames. Danton, il séduit son épouse Gabrielle en lui déclamant des vers italiens, en apparaissant au café de l'école où le père de Gabrielle dont le père de Gabrielle est le propriétaire. Danton sait s'imposer au milieu d'une foule. C'est un géant, sa voix est encore plus colossale, une voix de stentor qui entre en éruption et qui fait trembler les murs même d'une convention de quelques mille âmes. Donc cela, ces corps-là, cette étude-là, ça a été un vrai plaisir d'écriture, parce que ce sont des questions qu'on s'est rarement posées, en fait, alors qu'elles paraissent évidentes, et j'ai voulu enfoncer des portes ouvertes pour les peindre face à face. Et oui, ce sont deux faces différentes qui vont s'affronter. Comme David contre Goliath, si on doit rappeler une tradition mythologique.
Et dans une certaine mesure, Danton, il n'a pas vraiment besoin de chercher à se faire élire. Il va dans les brasseries du Quartier Latin, il parle, il harangue, et c'est comme ça qu'il va entrer en politique.
Bien, Danton est, comme Robespierre, avocat. Ils ont l'art de manier le verbe, une tradition rhétorique dans laquelle Robespierre excelle davantage, parce que c'est l'homme de l'écrit, Danton l'homme de l'oralité. Et jamais il écrira ses discours, sauf un, qui est d'ailleurs assez maladroit, que je cite, les phrases à rallonge, il est presque sur le point de battre Robespierre sur la longueur de certaines phrases. Mais Danton, effectivement, est la figure du tribun. Mais le tribun à l'antique, hein, pas le magistrat forcément tribun, mais l'homme du peuple qui jaillit au milieu de la foule. Et où est-ce qu'il jaillit, Danton ? Il jaillit dans le quartier, le district des cordeliers populaires, où il s'impose par sa verve, par son courage physique, Par exemple, lors de certaines crises, le 14 juillet, notamment, il est en armes de la garde nationale. C'est-à-dire qu'il est, il porte l'uniforme, il porte le sabre au côté, voire il a un fusil dans les mains à baïonnette. C'est un guerrier, dans le sens le plus classique du terme, puisque le peuple s'est fait armer en juillet 89, mais aussi en octobre 89. Et puis il y a une scène célèbre, me la représenter. Danton est au théâtre, il était au théâtre le 22 juillet 1790. On refuse de jouer une pièce de Marie-Joseph Chénier qui s'appelle Charles IX, qui est assez critique à l'égard des institutions monarchiques, et le directeur de théâtre, craignant la censure, craignant la fermeture, refuse de faire jouer la pièce. Et Danton monte sur sa chaise, il commence à hurler, à demander la pièce Charles IX. Tout le monde, le directeur s'oppose à lui, mais Danton insiste. Il insiste si bien qu'au final, avec l'appui de Talma, le plus grand comédien de la Révolution, la pièce est finalement jouée. Et des anecdotes comme celle-ci, il y en a plusieurs où Danton s'impose physiquement parce que il a aussi le côté du charme physique. Sans la beauté, il y a un côté tactile d'entrée en éruption, mais d'une chaude éruption qui réconforte parfois. Danton, quand il vitupère, il peut tout aussi bien s'adoucir. Et donc, autant il agresse au début, autant ça lui arrive juste après d'avoir agressé notamment un président de la Convention nationale, il le prend dans ses bras. Et il y a ce côté charnel, sensuel, que n'a pas Robespierre. Et Robespierre, qui est à l'inverse la figure de la légalité révolutionnaire, si l'on peut dire, hein, c'est-à-dire la légalité de l'élection de députés du tiers-État aux États généraux, député à la Convention. C'est un homme de loi qui gardera toujours ce sens de la rigueur juridique. Il est nommé un moment procureur, il officie ainsi à Versailles, et puis donc il y a ce parallèle, ou plutôt ce paradoxe entre deux personnes qui étaient absolument différentes, mais en même temps, vous savez, dans la vie, psychologiquement, on aime ce qui ne nous ressemble pas. Et je crois que ce sont justement au début ces dissemblances qui ont fait s'aimer spontanément Danton et Robespierre.
Vous avez décrit avec beaucoup de détails cette prestance de Danton. On aimerait l'avoir comme ami, mais comme ennemi peut-être un peu moins. Et on imagine à l'inverse un Robespierre très malhabile au début. Il y a des citations absolument géniales de certains journalistes qu'il trouve ennuyeux. Même ses amis ne peuvent plus l'écouter. Il y a beaucoup d'anecdotes assez amusante au sujet de Robespierre. Quand on imagine qu'on en fait le héros de la terreur, on a du mal parfois à faire cohabiter ces deux faces d'une même personne. Mais alors, il y a une question qui m'intrigue. Qu'est-ce qui peut motiver ces deux personnalités à entrer en révolution? Est-ce qu'ils veulent une monarchie parlementaire? Est-ce qu'ils veulent renverser le roi? Est-ce qu'ils ont seulement la haine de l'aristocratie? Qu'est-ce qui, au début de la Révolution, échauffe les esprits?
Il est vrai que j'ai essayé de penser les causes, voire même les origines de 89. Et j'ai voulu incarner cela dans deux tempéraments, Danton et Robespierre, qui ont les mêmes idées politiques au début, c'est-à-dire la notion de destruction d'un ordre qui doit devenir ancien. Il ne s'agit pas encore d'envoyer un quelconque échafaud qui n'existe pas en 89, hein, le roi bien-aimé Louis XVI, mais il s'agit de se venger des aristocrates, des ci-devant, qui ont beaucoup humilié cette classe bourgeoise, roturière, qui était tenue à l'écart des salons de Versailles. Et il fallait avoir le génie de Beaumarchais pour s'imposer. Et encore, même pour Beaumarchais, c'était difficile de s'imposer dans le Paris révolutionnaire parce que un peu les bouches étaient liées et il a fallu une révolution et non point une réforme pour faire basculer le pays dans autre chose. dans le monde moderne. Mais la première chose qui est essentielle, par exemple avec Robespierre, c'est qu'il défend des idées d'une parfaite abstraction. Il est demeuré un homme de lettres, pétri de culture antique, bien sûr, mais aussi des idées des Lumières, adorant Rousseau, on ne l'apprendra à personne, se rêvant en Rousseau lui-même.
Il fantasme sur Sparte.
Bien sûr, Robespierre a ce côté spartiate qu'il s'applique à lui-même dans sa vie privée, et qu'il voudra d'ailleurs enseigner par la suite et imposer cette vision-là avec Saint-Just à la tribune de la Convention. Pensons par exemple à son discours sur l'éducation. Robespierre, reprenant un discours de Le Peltier de Saint-Fargeau qui vient d'être assassiné, Robespierre prône l'éducation commune des enfants à partir de l'âge de, je crois que c'est 6 ans, 7 ans, pour les extraire de leur milieu social. Danton est beaucoup plus réaliste que Robespierre de ce point de vue-là.
Est-ce parce qu'il a des enfants lui-même, peut-être, que ça a un impact sur le côté pragmatique de Danton?
Alors oui, du coup, je veux vous dire que Danton s'est marié en 1787. Sans ce mariage, il n'aurait pu acquérir la charge d'avocat au Conseil du roi. C'est un homme endetté en 1789, Danton, avec des dépenses, si on veut dire, régulières, puisqu'il a une femme, et il cherche à avoir un enfant. Et il en aura un pendant la Révolution française, même si il va perdre des enfants en 89, il perd un enfant, Danton. Donc il a connu aussi cette souffrance-là, cette douleur-là. Danton recherche un bonheur personnel, familial, tout aussi bien collectif, mais il n'oublie jamais l'exigence de se réaliser dans sa vie privée. Et d'ailleurs, il le dit à un moment, il dit... ceux qui font des révolutions trop longtemps ne sont pas ceux qui en profitent. C'est un bon profiteur, un bon vivant, on va pas se le cacher. Il va souvent au théâtre avec des dames, il aime le beau sexe, il aime le confort de vie. A-t-il été corrompu ou non? Moi je postule que l'enquête n'est pas terminée et que la preuve n'est pas encore apportée, et comme en droit français on suppute que le doute doit profiter à l'accusé, et il y a toujours doute sur Danton malgré tout. Alors que Robespierre, lui, beaucoup plus taciturne, ne doute pas du fait qu'il n'est pas heureux. Il l'assume, ce fait-là. Il assume le fait de se sacrifier entièrement à la cause commune. Il l'écrit dans une lettre en 1787 à une amie. Il lui dit « Lorsqu'on ne possède pas soi-même le bonheur, on voudrait se consoler par celui des autres. » Imaginez-vous, cette personne-là l'écrit, le dit, il ne connaît pas le bonheur. Le bonheur, pour lui, ne peut être que collectif, et c'est pour cela, sans doute, qu'il va rejoindre Saint-Just dans la rédaction du premier article de la Déclaration des droits de l'homme de 1793. Le bonheur est une idée neuve en Europe, le bonheur ne peut être que social, que collectif. Et Saint-Just était, tout comme lui, un homme de Sparte, davantage que un philosophe plus libertin comme le sont les Desmoulins, les Fabre d'Églantine, bref, les amis de Danton et de Danton lui-même.
Quelle est la date de leur rencontre? Enfin, au moins, quelle est la première trace de leur rencontre à Danton et Robespierre? Et comment va se tisser cette amitié dont on pourrait parler des heures durant?
Mais c'est vrai qu'il y a amitié, et dans toute amitié, il y a d'abord le premier coup d'œil, si vous voulez, le premier échange, comment on se jauge. La première trace que j'ai trouvée d'une rencontre entre Danton et Robespierre, bon, il peut y en avoir avant, il y a toujours des silences de l'histoire. Robespierre va, juste après la prise de la Bastille, à Paris, on le conduit... devant les ruines de la Bastille, en train d'être bientôt démolie, et peut-être rencontre-t-il Danton. De même, rencontre-t-il Danton quand Danton vient dès 1790 à la tribune de la Convention. Mais la première trace, c'est lors de l'anniversaire du serment du jeu de paume le 20 juin 1790. Alors le serment du jeu de paume, Robespierre y était, David nous l'a peint au premier rang, s'élançant, dédiant, dévouant sa vie, s'offrant, offrant sa poitrine aux martyrs pour la cause de la liberté. Danton n'est pas député, prétend le serment du jeu de paume, mais il est là pour le premier anniversaire. Et ce premier anniversaire est organisé par la Société des Amis du Serment du Jeu de Paume. Il y avait beaucoup de sociabilité, hein, même de gaieté dans ce Paris de 1790. On cite à foison la fête de la Fédération, mais il y a aussi l'anniversaire du Serment du Jeu de Paume où un banquet est donné dans le bois de Boulogne avec des serveuses habillées en bergère qui les régalent de leur beauté, qui mettent du bon vin dans leur verre, qui leur servent des gâteaux d'où sortent des espèces de garçons angelots de la liberté nouvelle et moderne. Et Danton est le premier, ils sont plusieurs centaines, hein, présents sous une immense bâche dans le bois de Boulogne ce jour-là, et Danton est le premier à porter un toast. Alors imaginez-vous, il y a une centaine de députés présents. On a le procès-verbal, hein, de cette journée-là, et le premier à porter un toast, ce n'est pas un député, c'est ce trublion du quartier des Cordeliers, rive gauche, Saint-Germain, qui porte un toast le premier, et il porte un toast à Benjamin Franklin, à la liberté, à l'univers entier. Et Robespierre est le troisième à porter un toast, et il porte un toast à la liberté de la presse. Et tous les deux, Danton, Robespierre, œuvrent pour la Révolution, et leur mot d'ordre au début, c'est tout de suite la liberté ou la mort. Et ils vont se l'appliquer à eux-mêmes d'ailleurs.
Il y a un événement fondateur dans la Révolution, c'est bien entendu la fuite à Varennes. Comment est-ce que cette fuite à Varennes va être perçu par les protagonistes, et quel est le rôle que cette fuite va avoir dans leur carrière politique et dans leur conception de l'évolution de la Révolution?
Varennes est indubitablement un tournant. Timothy Tackett, dans son livre, l'a démontré, Mona Ouzouf aussi. Mais quand on le prend, cet événement, sous l'angle de Danton et Robespierre, on voit qu'ils font cause commune. Le roi n'est même pas encore de retour le citoyen Drouet, le citoyen Sauce, qu'il a accueilli dans la nuit du 20 au 21 juin 1791. Mais Danton et Robespierre font cause commune immédiatement, non pas forcément pour demander le renversement du roi. Robespierre ne s'aventurera jamais jusque-là.
Oui, c'est pas évident, hein, la fin de la monarchie. C'est pas du tout évident pour les révolutionnaires, pour tous les révolutionnaires en tout cas.
Mais en tout cas, c'est beaucoup moins évident pour Robespierre que pour Danton. Danton va se mouiller. Au retour du roi, il le qualifie d'imbécile, il demande de manière exagérée et imagée la tête de Lafayette, qui n'a pas su garantir la sécurité du roi, alors qu'en tant que commandant de la garde nationale, telle était sa fonction. Danton va contribuer à la rédaction d'une espèce d'adresse des cordeliers demandant une république, c'est-à-dire le renversement de la monarchie, tandis que Robespierre, lui, il fait petite mine basse, et il ne s'aventure jamais aussi loin, parce que pour lui la question institutionnelle n'est pas si importante que cela. Ce juriste voit d'abord la lutte politique entre les partisans et les adversaires de la Révolution, le reste lui importe peu. Et il va mettre du temps à se retourner contre la monarchie, contre le roi, mais effectivement, quand il va se retourner contre Louis XVI, il va demander le premier sa tête sans jugement. Mais c'est Danton qui, dans les mois qui suivent la fuite de Varennes, va demander l'abolition de la royauté, tant et si bien qu'il va être obligé de fuir. Il est sous le coup d'une arrestation, en même temps que Marat, Desmoulins, Danton fuit. Et alors, c'est quelque chose qu'il faut se représenter, ce petit silence de l'histoire. Au moment où Desmoulins, Marat, Danton s'exilent et où Robespierre se cache un peu à ce moment-là, dans le Paris d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il va loger chez les Duplé, rue Saint-Honoré. Ceux qui gouvernent à ce moment-là, les Feuillants, Barnave, Lamette, Duport, ils auraient pu éliminer ces opposants jacobins. Mais ils ne le font pas. Et loin de les éliminer, lorsqu'on déclare enfin la constitution de la législative, c'est le roi Louis XVI qui demande une amnistie. Et donc, Danton est amnistié. Et donc, cela lui permet de rentrer à Paris, et là, de tempêter toujours plus, jusqu'à allumer la mèche du canon du 10 août. Et c'est Danton qui va, plus que nul autre, organiser la commune insurrectionnelle, le soir du 9 au 10 août, en jetant les Marseillais, des Bretons, sur le château des Tuileries pour le prendre d'assaut.
Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de ce moment-là, il devient un homme de pouvoir ?
Alors, la singularité est la suivante. Robespierre est plus brillant que Danton dans sa carrière. Il est un avocat qui publie des mémoires, il est un député, il tient un journal, il est le roi des Jacobins. Et pourtant, c'est Danton qui, au lendemain du 10 août 1792, et donc la chute de la monarchie, qui sera vraiment décidé. Nous sommes en septembre, donc c'était en septembre 1792. Le roi chute et Danton s'empare du pouvoir. Il ne peut pas être roi. Alors il fait partie du gouvernement provisoire. Danton est l'homme le plus puissant de France à ce moment, en tant que garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et c'est lui, par la même occasion, qui organise la résistance de la patrie en danger contre l'envahisseur prussien, autrichien, aux portes de Paris, et déjà un pied en France, à Verdun, à Valmy. Et Danton va être, je le qualifie ainsi, le premier homme providentiel de l'histoire de la jeune République française. Et c'est lui qui va, en grande partie, obtenir la victoire des volontaires, des héros de Valmy, de la nation en armes contre l'absolutisme des trônes étrangers. Et c'est Danton l'homme fort de la Révolution à ce moment-là. Tant et si bien que, ayant commencé en 92 à exercer de si importantes fonctions, d'ailleurs, anecdote, j'ai trouvé une lettre où Danton prie Robespierre d'appartenir à une commission qu'il nomme en tant que ministre de la Justice pour réfléchir sur les nouvelles juridictions. Et Robespierre décline. On imagine mal Robespierre sous la férule et sous l'autorité de Danton. Et d'ailleurs, pour le dire franchement, ils n'exerceront jamais en même temps le pouvoir. Bien que le pouvoir, c'est le pouvoir sur l'opinion aux Jacobins. C'est comment diriger la rue. Ensuite, il y aura le gouvernement révolutionnaire, bien sûr. Mais c'est uniquement lorsque Danton quittera le comité de salut public que Robespierre y entrera. Danton part à la pêche davantage sur ses terres de Champagne, tandis que Robespierre, lui, s'échine à gouverner la France et lui donner ce visage de plus en plus radical qu'on lui sait.
Robespierre, aujourd'hui, c'est le visage de la terreur. Plutôt que de se demander pourquoi est-ce qu'on lui a attribué la terreur quasiment dans sa totalité, est-ce que vous pourriez nous dire, Loris Chavanette, quel a été son rôle véritable dans le déroulement de la terreur, si on le connaît ?
Eh bien, le rôle de Robespierre, il y a une formule célèbre, c'est un douzième du comité de salut public, un douzième de la terreur. Donc, toutes les mesures que va faire appliquer Robespierre en tant que membre des comités du gouvernement, elles sont votées par la Convention nationale. Mais la question, c'est elles sont votées de quelle manière ? Elles sont votées soit après que la Convention ait entendu une adresse sanguinaire, souvent, de la part du Club des Jacobins, à la tribune de la Convention nationale, demandant une radicalisation de la Révolution. une violence de plus en plus marquée et une guerre de plus en plus civile. Et Robespierre va marquer de son empreinte la révolution, la terreur. Et d'ailleurs, ce terme-là est essentiel parce que j'ai découvert quelque chose dans mes travaux, c'est que le premier jour où le terme de terreur est vraiment martelé à la tribune de la Convention nationale, c'est lors de la célèbre journée du révolutionnaire, insurrectionnel, du 5 septembre 1793. Et on a toujours dit que Robespierre se tenait à distance de cette virulence plébéienne des hébertistes, des enragés, des exagérés, alors qu'en réalité, Robespierre, à ce moment-là, est en fait le fer de lance de ce mouvement populaire parisien. Alors que Danton prend ses distances et veut arrêter la révolution, Robespierre veut au contraire la continuer et même l'accentuer. Cette violence, notamment la répression au sein du tribunal révolutionnaire. Et j'ai découvert que Robespierre est celui qui est chargé par les Jacobins de déclamer une adresse ce 5 septembre où on demande en gros une milice révolutionnaire, un tribunal révolutionnaire extrêmement expéditif. Et Robespierre est chargé de rédiger cette adresse. Et à ce moment-là, il est à la fois président du club des Jacobins, président de la Convention nationale et l'homme le plus puissant des comités. Bon, ça s'appelle une concentration des pouvoirs, quoi. Robespierre est alors président de la Convention nationale, mais il ne peut pas lire lui-même l'adresse qu'il était chargé de rédiger par les Jacobins. Et donc, qu'est-ce qu'il fait lorsque quelqu'un monte pour lire cette adresse-là ? Il descend tout simplement du fauteuil pour quitter l'Assemblée. Pourquoi quitte-t-il le fauteuil ? Est-ce que c'est parce qu'il est contre cette adresse, cette pétition-là ? Ben non, on voit bien que ce sont ses idées qu'il a défendues une semaine auparavant, mot pour mot. Donc, c'est certainement un retour de cours de l'université, de droit. Il s'est dit qu'il pouvait pas être à la fois au fauteuil et s'entendre lu à la tribune. Donc, Robespierre est vraiment l'homme qui a contribuer le plus à faire entrer la France dans cette terminologie de la terreur à l'ordre du jour. Ça n'a jamais été voté peut-être, mais cela a été lourdement manifesté à la tribune de la Convention nationale. Et d'ailleurs, Robespierre ne se gêne pas d'expliquer la légitimité de la terreur dans le discours. Il est l'âme de la terreur en ce qu'il est son verbe. Il fait un discours remarquable mettant en parallèle à la fois la terreur et la vertu à la Convention. Et il est un homme qui va sans cesse s'en prendre aux idées modérées. Alors les idées modérées, ce sont d'abord les Girondins. Il les envoie en grande partie à l'échafaud. Ensuite, ce sont les dantonistes, qu'on appelle les indulgents, dirigés un peu et animés par Camille Desmoulins, son vieux cordelier. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va les envoyer à l'échafaud. Et ainsi de suite.
Il y a deux camps pour Robespierre, les révolutionnaires et le reste, finalement, le reste qui ne mérite pas de vivre en France et qui n'est pas encore acquis à la cause. Donc pour lui, la solution pour l'avènement de la Révolution, c'est ou l'échafaud, ou bien l'exil, ou bien... Il y a quand même cette notion d'essayer de convaincre ceux qui ne sont pas encore acquis à la cause, ou en quelque sorte, c'est trop tard, la terreur va passer et...
Bon, Robespierre a bien assimilé ses leçons d'un monde manichéen tel qu'il pouvait être enseigné au collège de jésuites Louis le Grand. Le bien contre le mal. Il y a cette vision dichotomique, radicale, de binaire, des amis de la Révolution et des ennemis de la Révolution. Il le dit d'ailleurs dans un discours, il dit « il y a deux peuples en France. Les bons, il s'agit de les encourager parce que la vertu est en eux, et ensuite les méchants qu'on ne peut pas rallier, il s'agit de leur livrer une guerre féroce, la plus féroce qui soit. Et entre les deux, il n'y a pas de milieu. » C'est une vision quasi religieuse du fait politique, mais ce qui est intéressant, c'est à la fois de pointer cette spécificité robespierriste, bon, qu'il partage avec les Jacobins en grande partie, comme on disait à l'époque, comme il le disait lui-même, hein, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Mais c'est d'autant plus intéressant, alors, ce travail que j'ai essayé de faire, quand on regarde le point de vue de Danton. Et Danton, il dit l'inverse. Lorsque il est élu en 1790, non, 91, il est élu substitut du procureur de la Commune de Paris. Bon, c'est un rôle important. Il fait un discours et il explique qu'il il y a trois peuples en France, à l'inverse. Il y a les ennemis de la Révolution, oui, il faut leur faire la guerre et les exterminer. Et il a des mots très violents, voire parfois plus violents que ceux de Robespierre, à ce moment-là. Ensuite, il y a ceux qui sont partisans de la Révolution. Pas besoin de les convertir à la religion de la liberté. Ils sont déjà des âmes fortes et bien placées. Il y a un troisième parti, un troisième peuple en France. Ce sont ceux qui hésitent, ceux qui doutent, les indifférents qui se mêlent pas de politique. Et Danton dit qu'au lieu de les pourchasser, parce que plus tard, sous la Terreur, on va persécuter les indifférents, c'est comme ça qu'on les appelle. Danton dit au contraire qu'il faut les rallier à la politique de la Révolution, aux idéaux de la Révolution. Danton est beaucoup plus moderne en cela que Robespierre, et c'est pour cela que dans ce livre, c'est à la fois une biographie, mais c'est aussi un essai sur l'art de la politique, nos origines démocratiques, où il y a déjà ces distinguos qu'on entreaperçoit, même si ils sont modernes et anti-modernes, hein, ils appartiennent autant à plus tard que j'allais dire à la Ve République, ils sont entre les deux presque, mais en tout cas il y a ce distinguo à faire entre la vision du politique de Danton, la vision du politique de Robespierre, et c'est surtout marquant, je voudrais insister là-dessus, parce qu'il y a un fil conducteur dans mon livre, c'est aussi la question de la séparation de la vie publique et de la vie privée. Parce que Robespierre, lui, n'ayant pas de vie privée, d'où l'intérêt d'étudier sa vie privée, elle est absolument avalée, absorbée par sa vie publique. Il est entièrement consacré à la vie publique. Sans famille, quasiment sans amis, ou quelques-uns à peine, il se sacrifie pour la cause de la Révolution entièrement. Il demande, il exige des autres le même sacrifice. Il le dit à plusieurs reprises. Tandis que Danton a une vie privée. Il est lui-même l'incarnation même d'une dualité humaine. Il est à la fois bon vivant et un homme grave qui défend l'égalité à la tribune. Il est un homme à la fois de la Révolution française dans toute sa virulence, mais aussi celui qui espère la fin de la guerre civile pour asseoir une démocratie moderne, c'est-à-dire peut-être pas le pluralisme démocratique tel qu'on l'entend, mais une sortie de la révolution, non point par l'outrance et l'idéologie, mais par une dose de réalisme. Et il entrevoit déjà la nécessité de la séparation de la vie publique et de la vie privée. Qu'est-ce que nous a montré le XXe siècle? Je pense aux travaux de François Furet, Mona Ouzouf, de tout ce courant. C'est essentiel de considérer que la démocratie, c'est aussi la société. Et la société, elle respire, elle a besoin de respirer, elle a besoin de liberté. Et Danton l'avait très vite conçu, et c'était très fort de le concevoir à ce moment-là, au moment des troubles les plus graves.
Mais ils vont pas connaître cette ère de paix, finalement, puisqu'ils vont mourir tous les deux sur l'échafaud quasiment au même moment. À ce moment-là, ils ne sont plus un duo, mais ils sont devenus un duel, pour reprendre votre expression. Est-ce qu'on sait comment ils sont morts? Est-ce qu'ils sont morts avec panache?
Robespierre n'a pas eu le privilège de mourir avec panache. S'est empris une balle dans la mâchoire. Plus ou moins volontairement, on ne sait pas. Je raconte qu'il est tellement maladroit que c'est pas impossible qu'il se soit manqué en tentant de se suicider. Mais il avait cette approche, c'est vrai, à l'antique, et plusieurs fois il a dit qu'il se sacrifierait pour la liberté. Ça m'étonne. L'hypothèse du suicide de Robespierre est tout à fait plausible selon moi. Et donc il a la bouche bâillonnée. Je montre dans le livre, à ce moment-là, un portrait de Robespierre croqué, dessiné par David. David qui idolâtrait Robespierre. Et on le voit bâillonner quand Robespierre marche à l'échafaud, il montre en être souffrant. Pendant des heures, il souffre avec ce bandage tuméfié de sang, avec c'est sordide le supplice de Robespierre. Il subit d'ailleurs son supplice, tandis que Danton, effectivement, c'est l'image qu'on en a retenue. D'ailleurs, elle est assez formidable. Il dit effectivement au bourreau, tu montreras ma tête, elle en vaut la peine. Parce que comme on a déjà montré la tête à d'autres, Louis XVI, Charlotte Corday avait même été giflée sur l'échafaud, Danton veut exercer une puissance physique, une présence physique, en dictant au bourreau l'humiliation que représente le fait de montrer sa tête. Il décide jusque dans sa mort, comment il doit mourir. Et il a aussi des mots, raconte Barras. Danton, pour sa famille, il a une faiblesse sur l'échafaud. Ça le grandit. Il a des mots pour une faiblesse, pour sa femme et ses enfants qu'il abandonne. Il est sur le point de pleurer. Et il se dit, reprends-toi, Danton. La postérité t'attend. Il voulait sa place au panthéon de l'histoire. Et puis, il manque pas d'humour sur l'échafaud. Je cite ce fait qui est très drôle et très absurde à la fois. Un de ses amis lui dit au moment de monter sur l'échafaud, oh quel malheur j'ai, je crois que c'est Fabre ou d'Églantine ou Héros de Seychelles, lui dit quel malheur, je meurs en ayant dans mon bureau laissé un manuscrit absolument magnifique, je pourrais jamais le publier, ce poème que j'ai fait. Et Danton lui rétorque, t'en fais pas mon ami, on aura tout le temps de faire des vers. Faire des vers au sens le plus matériel, corporel qui soit. Donc il plaisante, il est un typiquement ce personnage rabelaisien, ce bon vivant qui est invité à manger la poularde chez lui. Il a une présence physique hors norme jusqu'à l'endroit où c'est impossible de faiblir et où il ne faiblit pas, c'est bien sûr sur l'échafaud. Et Danton est vraiment remarquable physiquement, on en parlait tout à l'heure, d'un bout à l'autre de son histoire.
Merci beaucoup, Loris Chavanette, de nous avoir parlé de ces deux personnages qui sont à la fois attachants, fascinants. On a envie de lire l'intellectuel Robespierre. En même temps, on préférait dîner avec Danton. Merci beaucoup de nous avoir parlé avec autant de précision de ces deux héros de la Révolution française. Je rappelle que vous venez de publier un portrait croisé donc de ces deux personnages aux éditions Passé Composé, Danton et Robespierre. Le choc de la Révolution, avec une préface de l'historien que vous connaissez, chers auditeurs, Emmanuel de Varesquiel. Merci à vous pour votre écoute, pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.
C'est moi qui vous remercie.